RCF.
Dans votre livre consacré à l'histoire populaire du football, Michael Correia, vous mettez vraiment l'histoire du foot en perspective dans la grande histoire. Vous nous avez raconté comment il s'est inscrit dans le cadre des régimes totalitaires, soit parce qu'il a été instrumentalisé, soit parce qu'il s'y est opposé. Le contexte de colonisation et de décolonisation est également à prendre en compte pour comprendre le pouvoir du foot et la manière dont il est aussi un lieu de résistance, encore une fois.
Oui, c'est vrai que ce soit sur le continent africain ou que ce soit sur le continent sud-américain, les différents pouvoirs coloniaux vont très rapidement aussi inculquer le football dans une optique, cette fois-ci, plus de civiliser, entre guillemets, les indigènes et de disciplinariser un peu les corps. Et c'est vrai que notamment au Brésil, on va voir qu'il va avoir une vraie extension du football, mais qui va être réappropriée par les peuples colonisés. Notamment au Brésil, il faut savoir que donc au début, le football, il sert vraiment à cultiver l'entre-soi aristocrate et c'est un sport exclusivement réservé aux Blancs. Hein. Mais petit à petit, notamment au début des années 20, on va avoir quelques joueurs métis, noirs ou indiens qui vont... Enfin, déjà, ces populations vont être fascinées par le football et un peu le pratiquer à la marge de façon assez sauvage. Mais comme ces joueurs sont tellement bons, c'est vrai que quelques équipes, notamment de São Paulo ou de Rio de Janeiro, vont intégrer quelques-uns de ces joueurs. Alors ça va être compliqué pour eux, il y a certains qui vont même devoir se mettre de la poudre de riz pour un peu blanchir leur peau.
Mais, pour être admis dans les équipes.
Mais donc, il faut savoir que dans les années 20, dans les années 30, la société brésilienne est extrêmement raciste. Et pour ces joueurs non blancs, ça va être très compliqué. Parce que donc le public est raciste, les joueurs sont racistes et l'arbitre est raciste quoi. Donc à chaque fois quand il y aura un attaquant non blanc ou en tout cas un attaquant noir, il serait que quand un défenseur blanc va essayer de le tacler ou en tout cas va le tacler ou en tout cas l'agresser physiquement, bah, l'arbitre va pas du tout siffler la faute.
Et ça peut être très violent et aller très loin, il peut y avoir des blessures graves.
Et c'est vrai que la réponse, quelle va être la réponse assez intelligente, assez intelligente de ces footballeurs noirs, ça va être d'esquiver cette charge quoi. Il se fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui le dribble c'est vraiment un élément structurant du foot brésilien. Il vient vraiment de là, c'est vraiment la réponse du footballeur noir face à la charge du défenseur blanc. C'est comme j'ai pas la loi avec moi parce que l'arbitre ne va pas siffler la faute et comme j'ai le public contre moi comme il est raciste, ce que je vais faire c'est je vais esquiver cette charge là et donc procéder à un dribble quoi. Et c'est vraiment une réponse, il y a vraiment une portée décoloniale dans ce geste-là, parce que c'est vraiment la réponse du colonisé face au colon, la réponse du dominé face au dominant, qui est, pour exister sur le terrain comme dans la société, hein, de toute façon, je dois me soustraire à cette violence-là du colon.
Et petit à petit, le foot finit par intégrer complètement la population, puisqu'on sait aujourd'hui la passion que les Brésiliens portent à ce sport.
C'est vrai que le football va vite devenir, notamment à partir des années 40, 50, 60, un vrai ciment social au sein de la société brésilienne. Et c'est vrai qu'on va avoir beaucoup de joueurs, encore une fois, noirs, métis ou indiens, avec des grands joueurs comme Pelé, de couleur noire, ou Garrincha, qui est plus d'origine indienne. Ils vont commencer à intégrer dans leur style de jeu des éléments de la culture populaire brésilienne. Je pense notamment à la capoeira ou à la samba, ou une autre figure, notamment ce qu'on appelle le malandro. Le malandro, c'est le voyou de la rue, c'est celui qui doit toujours ruser pour survivre. Et c'est vrai que quand ces joueurs-là, notamment durant la Coupe du Monde de 1950, 54 ou 58, vont émerger sur les terrains en Europe, les commentateurs vont dire, on dirait de la danse, quoi. Ils vont vraiment faire appel à ces paraphrases-là, parce que c'est vrai qu'ils vont vraiment piocher dans cette terre-là un peu, enfin on va appeler ça le football arte, c'est vraiment l'art, il y aura une dimension artistique
et esthétique.
Au football et esthétique au football, oui.
Boitons le café et le roi Pelé. Boitons le café et le roi Pelé.
Dieu, son prophète Mahomet. Mais en football, les rois et Pelé.
Drapeau bleu, café et les rois Pelé.
Alors, puisqu'on est au Brésil et que vous avez prononcé leur nom, ce serait quand même dommage de ne pas dire un mot des destins de ces deux hommes que sont Garrincha et Pelé.
Mais c'est vrai que ça a deux modèles de masculinité complètement différents au sein de la culture populaire brésilienne. Pelé, ça va être vraiment un pur athlète, c'est vraiment le sportif qui va se dire, pour m'en sortir, je peux m'en sortir qu'à travers le football et qu'à travers mon corps. Et c'est vrai qu'il va avoir un certain ascétisme. Il va vraiment travailler de façon totalement acharnée. C'est le premier grand football athlétique qui va consacrer pleinement sa vie à ça.
Discipliné.
Discipliné. C'est le premier aussi qui va commencer à mettre en place certains contrats sportifs aussi publicitaires. Bref, il va vraiment comprendre que le football, ça va être un ascenseur social pour les Noirs et qu'à partir du moment, il doit vraiment se sacrifier et tout mettre en œuvre pour ça.
Garrincha ?
Alors Garrincha, on est extrêmement à l'autre, c'est vraiment l'autre opposé, donc lui il est plus d'origine indienne, mais c'est vrai que pour lui il va prendre ça, c'est quelqu'un qu'on surnomme la joie du peuple. Garrincha en brésilien, c'est un petit oiseau qui quand est capturé meurt quoi. C'est vrai que ça correspond bien au personnage qui lui va faire aucun plan de carrière, pour lui le foot ça reste qu'un jeu.
Qui souffre quand même d'un handicap,
oui.
C'est quand même assez...
C'est ça aussi, c'est extrêmement important, donc face à ce Pelé qui est extrêmement athlétique et sportif, Garrincha il souffre d'une maladie congénitale, donc il a les deux jambes qui sont arquées quand même vers l'extérieur et il a une des deux jambes qui est plus courte que l'autre quoi. Mais cette infirmité là il va la retourner, ça va vraiment être son arme dans le sens où il va être connu pour des dribbles assez ravageurs. Il va, durant un fameux match contre l'URSS face au monstrueux, au géant russe, il va les faire littéralement tomber grâce à ces dribbles là. Mais c'est vrai que Garrincha, lui, au contraire, contrairement à Pelé, qui, après le match, va rentrer à son hôtel et va s'entraîner dès le lendemain, Garrincha, lui, va continuer à faire la fête avec les supporters. Il va aussi avoir un penchant assez immodéré pour l'alcool. Et c'est ça qui va, pour les femmes aussi, et c'est ça qui va le tuer à petit feu. Et puis, il va disparaître au début des années 80. Il va l'être un peu dans l'oubli. Il y aura quand même, encore une fois, 100 000 personnes qui vont assister à son enterrement, sauf Pelé, qui ne viendra pas... qui ne viendra pas le voir. Mais c'est vrai que c'est deux modèles complètement différents, mais l'amour populaire brésilien penche toujours pour Garrincha.
Vous parlez dans votre livre, dans le chapitre consacré à cette question de la colonisation et des processus de décolonisation, du rôle du foot dans ce qu'on appelait les événements d'Algérie, qu'on appelle aujourd'hui la guerre d'Algérie.
Oui. Mais c'est vrai qu'effectivement, bon, ça arc encore une fois, le football, notamment en Algérie, va vraiment être inculqué par les colons. Mais quand la résistance algérienne se met en œuvre pour déclarer l'indépendance de l'Algérie, notamment à partir de 1958, donc après la bataille d'Alger, etc., pas mal du cadre du FLN, qui étaient eux-mêmes des anciens cadres de clubs sportifs en Algérie, vont commencer à se dire ce serait pas mal qu'on est en train d'un peu perdre sur le front de la lutte armée. Et c'est vrai que la lutte est très peu populaire en France. Comme vous le disiez, on parlait à l'époque dans les médias d'événements. Ils vont commencer à se dire, ces cadres du FLN, que ce serait pas mal de mettre en place, de revenir un peu sur le front de la propagande. Quoi. Et c'est vrai que l'idée, il y a une idée qui va germer, une idée assez folle qui va être de dire, on va créer une équipe de football du FLN, une espèce de proto-équipe d'Algérie. Mais qu'est-ce que vont se dire ces cadres ? Ils vont pas recruter des footballeurs algériens en Algérie. Ils vont se dire, on va recruter les meilleurs footballeurs algériens qui évoluent à l'époque en première division
en France, métropole.
Avec des grands joueurs à l'époque comme Rachid Mekloufi, par exemple, qui évoluait à Saint-Etienne.
Et ils arrivent à les convaincre.
Alors voilà, il y a une personne, un émissaire qui va être envoyé. Et pendant un an, il va tourner dans tous les clubs de première division française et convaincre un par un une douzaine de joueurs de passer clandestinement la frontière et de rejoindre le gouvernement en exil à Tunis. Quoi.
Et il joue ?
Alors, ils vont jouer. Donc, cette équipe-là, elle est formée en 58. Alors, déjà, le geste, il est pas anodin. L'équipe est formée en avril 1958. Quelques mois après, en juin 58, il y a la Coupe du Monde de Suède, qui se déroule en Suède, pardon, qui va démarrer. Et déjà, le FLN arrive à capturer quelques joueurs clés qui devaient officier durant cette Coupe du Monde. Donc, c'est un vrai coup d'éclat dans la presse française à l'époque. Et donc, ils vont jouer donc de 58 jusqu'à l'indépendance en 1962. Ils vont jouer entre 80 et 90 matchs en Tunisie, en Irak. Ils vont aller aussi en ex-Yougoslavie, en Chine, au Vietnam. Ils vont en quelque sorte ainsi dessiner les premiers contours de la diplomatie de l'État indépendant algérien.
Pour terminer, un autre exemple quand même assez étonnant et révélateur. Là, on va plus vers l'Est et le Proche-Orient. C'est celui qui concerne les Palestiniens.
Oui, c'est vrai que les Palestiniens, ça a été aussi... Alors, c'est une lutte de longue haleine depuis encore une fois les années 30, où on a des premiers clubs sportifs qui essaient de se mettre en place. Bon, après la guerre de 47-48, petit à petit, on va avoir une équipe palestinienne qui va essayer de se mettre en place. Alors, ça va être extrêmement compliqué. Mais c'est vrai qu'en 1998, il va y avoir une fédération palestinienne de football qui va être mise en œuvre et qui va être reconnue par la FIFA. Et donc, c'est vrai que la FIFA va être la première organisation internationale
à reconnaître
ouais, l'État palestinien en tant que tel, quoi. Et aujourd'hui, il y a toujours un championnat palestinien qui existe, mais qui est extrêmement difficile parce que dans ce championnat palestinien ressurgit un peu le quotidien du conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que pour ces joueurs-là, c'est extrêmement compliqué de se déplacer dans les territoires, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, puisque tout le territoire est émaillé par des checkpoints israéliens. Et c'est vrai que les autorités israéliennes ont très bien compris que le football était un ciment très important de l'identité palestinienne et donc va toujours, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, bloquer les différents footballeurs ou équipes aux différents checkpoints et empêcher les matchs de se dérouler. Et c'est vrai que ça va être une lutte continue pour la Fédération palestinienne d'exister et de mettre en œuvre ce championnat de football en Palestine.
Merci et on poursuit demain.